Bonsoir à tous et bienvenue dans Surécoute, votre émission d'actualité locale sur Syllab. Ce soir, on vous promet une émission sans cafouillage et autour de moi, une belle brochette masculine. Je suis avec Romain et Jules.
Bonsoir.
Bonsoir. Salut.
Et Julien nous rejoindra un peu plus tard. Donc au programme, on vous parlera d'une soirée au tambour avec l'orchestre Melting Notes. Romain, tu nous as préparé une interview.
Et oui, c'est avec Henri Bunel qui vient d'une association, vraiment un collectif très important, un collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Il parlera notamment des agriculteurs qui ont beaucoup de difficultés à faire reconnaître leur maladie en matière de maladie professionnelle. On parlera notamment de Jean-Luc Chagnolot puisqu'un rassemblement est prévu durant la semaine devant le tribunal de Rennes pour défendre, malheureusement lui il est décédé, mais c'est pour sa famille maintenant. Et vraiment des questions de société très très importantes.
Juste après, on changera totalement de registre parce qu'on retournera auprès des transmusicales puisque Julien va encore ce soir nous partager un de ses reportages et on réécoutera une interview réalisée ce week-end sur le plateau de Radio Campus. Donc ce sera une interview de songe qu'on affectionne particulièrement à Syllab.
Oui, tout à fait.
Et en fin d'émission, ce sera la chronique tant attendue de Jules.
C'est ça.
Mais avant ça, Romain s'attelle au Flash Info pour ouvrir cette émission.
Dans ce flash info d'info local, on évoquera les soutiens parfois difficiles pour Fillon au local, la mobilisation d'associations pour la défense des droits des migrants, ou encore la réitération des policiers municipaux de leur volonté de s'armer. On finira par la liberté, celle des femmes, avec Anna Karenine au carré Sévigné.
Macron ou Fillon, le cœur à balancer pour les jeunes de l'UDI.
Mais ils ont été ramenés dans le rang par leurs aînés. L'UDI ayant participé à la primaire de la droite et du centre, ils se sont engagés à soutenir le vainqueur. Pas de bol, ce fut Fillon. À des années-lumière de leur projet de société, comme le soulignait le délégué départemental des jeunes UDI. Pas question pour la délégation départementale de laisser ces jeunes sortir du chemin, même si Antonin Bouchez avait assuré que le choix des jeunes pour Macron s'était effectué à l'unanimité au sein de leur mouvement. Tant pis pour eux, ils feront la campagne de François Fillon.
D'ailleurs, Fillon prépare déjà son équipe présidentielle et il se pourrait qu'une vitréenne fasse partie d'un éventuel gouvernement de droite.
Et il s'agirait de Isabelle Le Callennec, députée de Vitré, comme tu l'as dit, qui a plébiscité Fillon à l'entre-deux tours de la primaire, alors même qu'elle avait été promue vice-présidente et porte-parole de LR par Nicolas Sarkozy. C'est le mensuel de Rennes qui le souligne. Ils ajoutent que son mentor Pierre Méhaignery soutenait quant à lui Alain Juppé. Une belle leçon de fidélité en somme.
Si vous défendez les droits des migrants, vous connaissez peut-être les cercles de silence.
Il s'agit d'un concept visant à défendre la fermeture des centres de rétention administrative ou encore leur transformation en centres d'accueil et d'orientation. L'idée globalement, c'est de ne plus permettre des restrictions de liberté pour des personnes sans papier, dont des enfants, en ce qui concerne le centre de Rennes-Saint-Jacques. Le prochain cercle de silence est appelé par de nombreuses assos, parmi elles Coexister 35, la CIMAD, Citoyens et Chrétiens 35 ou encore Accueillir et Partager et bien d'autres. Il se déroule demain entre 18h et 19h, place de la mairie.
Ils ont réitéré leur demande en manifestant devant le conseil municipal. Les policiers municipaux veulent des armes létales.
Mais cela ne correspond pas avec leur mission de tranquillité publique. C'est ce qu'a affirmé la maire de Rennes, Nathalie Appéré, une nouvelle fois face à Jérôme Jourdan, secrétaire général du syndicat EFO. Si les policiers ont exprimé leurs craintes, Nathalie Appéré a répété que rien ne prouvait que le niveau d'armement et la baisse de la délinquance étaient corrélés. L'opposition a proposé, je cite, un référendum local pour décider en intelligence avec les Rennais au service des Rennais. Fin de citation. La majorité municipale n'a pas bougé de sa position. Pas d'armes létales pour les policiers municipaux.
Et pour finir, un mot de la programmation du Carré Sévigné dimanche.
C'est à Cesson-Sévigné que la pièce Anna Karénine, d'après l'œuvre de Tolstoï, sera présentée. Elle est mise en scène par Gaëtan Vassard et elle nous parle de la liberté des femmes. Il a été monté au Théâtre de la Tempête à Paris et sera présenté pour une des dernières fois en Ille-et-Vilaine. C'est donc le moment ou jamais de découvrir ce spectacle.
Tout de suite, on va parler du Melting Notes Orchestra, mais avant ça, on écoute les pirouettes avec Jouer le jeu sur Syllab.
J'ai une putain de vue ce soir. De ma chambre, je vois la ville en bas. Toujours la même histoire. Prédateur embusqué sur les toits. J'suis putain de seul, putain de bleu. J'ai une putain d'envie de toi. Je sais ce qu'ils veulent et je joue le jeu. J'ai une putain de carrière devant moi.
Ton sourire,
réveiller les enfants,
l'eau d'une nouvelle.
J'ai des putains de vues sur toi. Qu'est-ce que t'attends pour jouer le jeu? C'est un putain de cocktail, toi et moi. Allumer les écrans.
C'était les Pirouettes avec Jouer le jeu sur Scylab. Alors, ce jeudi 8 décembre à 20h30 au Tambour, la saison de Melting Notes Orchestra s'ouvre par un concert de musique espagnole et catalane. On est avec Alex qui est étudiant en espagnol, c'est ça ?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu du Melting Notes Orchestra ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est ton rôle dans cette soirée ?
Donc, c'est un groupe de concert symphonique qui est surtout centré notamment sur ce qu'elle a dans la musique espagnole. Donc des musiques catalanes et andalouses. Mon rôle surtout, ça va être de réciter la récitation de poèmes. Donc on est une dizaine à réciter des poèmes espagnols, mais aussi des textes en prose, donc d'Antonio Machado, de García Lorca, donc de différents poètes.
Quel accent.
moi, je vais le faire à la française. García Lorca, effectivement, c'est un poète qui a eu énormément d'influence.
Ouais.
C'est vous qui avez choisi justement ces textes-là. Comment est-ce que vous les avez choisis ?
Oui, c'est les étudiants qui ont choisi les poèmes. Ils ont été traduits par des étudiants aussi. Mmh. Voilà, donc c'est une autre traduction. Mais c'est aussi des échos à travers la musique espagnole et la poésie espagnole aussi, andalouse et catalane.
Est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment ça s'est passé, le déroulement de cette soirée, et comment est-ce que vous avez pu proposer, parce que ça reste quand même un très très gros événement, de faire venir un groupe comme celui-ci. Votre implication du BDE espagnol, ça s'est passé comment ?
Très bien, donc on se réunissait au niveau des réunions, mais sinon ça marchait surtout par correspondance email. Donc. Mmh. Et
Vous êtes combien globalement ? Et puis, l'idée est venue de vous au départ ?
Oui, surtout. Et sinon, on a eu de l'aide de Madame Sablonnière, qui est professeure d'espagnol ici à la faculté de Rennes 2, qui joue de la basse dans ce concert notamment.
Yeah.
Voilà.
Vous ramenez le soleil en fait un petit peu. Ouais. C'est ça.
Donc, ce seront des œuvres musicales accompagnées de lectures de textes en espagnol et en catalane, pour retracer la variété des questionnements et la force créatrice de cette période dont les échos se font entendre aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus du thème, justement, des textes choisis ?
Donc, c'est surtout la mer, l'aube, donc c'est des poèmes, des débuts des années 20, donc c'est des poèmes qui s'extraient du romantisme, qui vont plus vers le symbolisme. Donc, ça reste assez poétique quand même, et assez beau quand même.
Une certaine forme de pression un petit peu de présenter ses poèmes comme ça devant d'autres étudiants entourés d'un tel orchestre ?
Non, on va s'entraîner donc demain soir, c'est la première répétition, le premier gros filage, voilà. Et sinon c'est jeudi soir, le grand spectacle.
Alors sur les infos pratiques, peut-être on va en savoir plus, est-ce que tout le monde est le bienvenu, même les bourses appauvries ?
Oui, donc c'est gratuit, tout le monde peut venir, voilà. C'est gratuit.
C'est vachement plus simple quand on le dit comme ça, en fait.
Ouais. Ce sera le jeudi 8 décembre à 20h30 au Tambour, donc c'est à l'université de Rennes 2, juste à côté du métro Villejean, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Et donc, comme on le disait tout de suite, ce sera gratuit, avec une participation libre aussi, si j'ai bien compris.
Oui, voilà. Mm.
Alors au BDE espagnol, vous avez de nombreux projets comme ça durant l'année. Celui-ci a l'air quand même assez conséquent.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres projets, je crois. Donc après, il faudra en parler pour voir si on peut faire d'autres actions comme celle-là. Voilà, mais sinon, je pense que ça va être répété si ça va se renouveler encore dans les prochaines années, je pense.
Alors pour toi et tes collègues qui ont participé à cet événement, promouvoir la culture espagnole par ce genre de biais, c'est vraiment très important. Pourquoi est-ce que ça te parle vraiment d'avoir envie de transmettre tout ça?
Déjà, c'est une poésie qui a eu beaucoup d'influence, nous, notamment en France. Aujourd'hui, c'est notamment par la poésie espagnole qu'on a eu des poètes comme Paul Valéry ou même ensuite Aragon, qui sont beaucoup inspirés, qui ont vécu à Barcelone. On a eu aussi une production artistique en peinture qui est née de ça, donc voilà, notamment Pablo Picasso ensuite. Et maintenant, je pense qu'il est bien aussi de quitter un peu l'actualité politique et tout ce qui se passe pour un peu s'évader autour de la musique et de la poésie.
Ah, se créer des petites bulles de poésie, en effet, on essaye de faire ça comme on peut ici sur Rennes. Toi, plus personnellement, pourquoi est-ce que cette civilisation espagnole, avec tout ce qui va avec, t'a parlé et t'a donné envie de t'y investir, comme tu le fais aujourd'hui ?
Bon, déjà, ça fait plusieurs années que je fais de l'espagnol et le projet m'a tout de suite attiré d'ajouter, en fait, de prendre la poésie et la musique en même temps et faire quelque chose avec. Et ça va vraiment bien ensemble, je pense, le fait de musicalité aussi des mots et à la fois des instruments.
On adore, c'est déjà impatient.
Et oui, et bien bon courage pour jeudi. Comment on dit bon courage ou bonne chance en espagnol? Quelqu'un, enfin, mis à part toi, quelqu'un est bon en espagnol autour de cette table?
Ou alors un truc, parce que c'est presque du théâtre ce que vous allez faire, donc faut pas dire bon courage, c'est mal vu, c'est
ouais,
bonne chance.
Genre merde, mais enfin, on dit pas de gros mots à l'antenne, mais je ne sais pas.
Comment tu le dirais?
Animo.
Yeah.
Je ne répéterai pas.
Bon alors, le beau succès de cette soirée, ça va être d'abord l'affluence, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est ça hein?
Oui, tout voilà, simplement. Surtout.
Eh bien, venez.
Jeudi, 20h30 au Tambour, pour retrouver Alex.
Yeah.
Bah, tout de suite, on va changer de registre, on reviendra à la musique plus tard, mais on te retrouve juste après, Romain.
Oui, on va parler d'intoxication aux pesticides, voilà. On change un peu de sujet.
On va le faire en espagnol peut-être.
Ah bah ça, je pourrais pas te dire.
Bah, avant ça, on écoute Django Django avec Check and Tremble. C'était Django Django pour le plus grand plaisir de Romain. Tu aimes mes goûts musicaux?
Non, mais c'est pas si mal en fait.
Ouais, bah, voilà, voilà.
Je reconnais, c'est pas mal.
Bah, d'ailleurs, Romain, on passe à toi tout de suite avec Intoxication aux pesticides.
Bah oui, c'est ça. C'est un collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest parce qu'on parle beaucoup du bio, mais on parle assez peu des personnes, des agriculteurs notamment, et puis des riverains des exploitations qui, eux, bah, sont victimes de ces pesticides-là. Alors, j'ai eu l'occasion d'interviewer un des membres de ce collectif qui, lui, bah, prendrait forcément contre l'agriculture productiviste un changement total de façon de fonctionner sans pesticides. Bon, bien sûr, ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas, vous allez voir que c'est de très bonnes pistes et que c'est très important d'avoir conscience de tout ça. Nous sommes donc avec Henri Bunel du collectif de soutien des personnes exposées aux pesticides. Les pesticides, un enjeu tout à la fois de société, mais un enjeu individuel. C'est tout le sens de l'action que vous menez dans votre collectif, à la fois de sensibilisation des partenaires publics, mais également des citoyens, mais aussi un drame humain, comme vous pouvez le signaler, avec l'accompagnement des personnes qui en sont les victimes. C'est bien là le deuxième, le cœur de votre travail.
Oui, c'est tout à fait ça, parce que les personnes qui sont victimes de pesticides, bon, ont à se battre sur plusieurs fronts. D'abord un front personnel, il faut faire face à l'annonce de la maladie qui est vécue le plus souvent comme un drame et comme quelque chose d'assez inattendu. C'est d'autre part quelque chose qui est très déstabilisant pour les familles, bon, quand les enfants, la femme voient le père ou le mari qui est atteint de maladie et qui est diminué, c'est forcément beaucoup d'angoisse. Et puis, c'est aussi une bagarre vis-à-vis de l'administration, parce que le problème, il est de faire, non pas simplement reconnaître qu'on est malade, mais que la maladie a un lien avec une exposition aux pesticides, et c'est là que véritablement tout se complique. Quand on est dans le milieu agricole, c'est avec la MSA, ailleurs c'est avec la caisse primaire d'assurance maladie. Donc l'attitude de ces organismes est quelque chose d'assez insupportable vis-à-vis des personnes qui sont malades.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette posture de la mutualité sociale agricole, notamment sur ces questions-là?
Je pense que on baigne, je dirais, dans les pesticides comme on respire, hein, d'une certaine manière. Il y a un système agricole qui s'est développé sur les bases qui sont celles de l'agriculture intensive. Tout le monde sait qu'il y a des dangers. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de malades et l'administration, eh bien, résiste le plus possible pour éviter que ça ne lui coûte trop cher, d'une certaine manière, quoi. Donc il y a une façon d'appliquer des textes qui est extrêmement restrictive. Il y a de la bagarre de façon permanente, il y a des lenteurs, il y a toutes sortes de difficultés, quoi. Donc il y a une question économique, une question de droit. On veut éviter qu'il y ait des précédents qui soient créés, quoi.
Une partie de votre équipe sera demain auprès des élus bruxellois, enfin de l'Union européenne en tout cas, pour les sensibiliser, pour faire du lobbying auprès d'eux, on peut appeler ça comme ça. C'est au niveau de Bruxelles aujourd'hui que la plupart des choses peuvent changer ?
Pas simplement, c'est à tout niveau, c'est au niveau local, c'est au niveau de l'administration ici, mais c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur des réglementations européennes, c'est très important. L'État, via ses administrations, a un rôle de contrôle vis-à-vis des entreprises pour protéger la santé des salariés. Nous estimons que ce rôle n'est pas véritablement rempli. Il y a des cas où il y a des avancées, mais on voudrait que la France soit mise en demeure de bien faire appliquer toutes les réglementations pour protéger, que ce soit les agriculteurs, les riverains ou d'autres.
Et même aujourd'hui,
actuellement, ça n'est pas suffisamment protecteur.
Même au niveau de l'Union européenne, globalement, l'agriculture productiviste domine. Vous militez pour l'interdiction à terme de toutes les substances dangereuses pour la santé, en particulier, bien sûr, les pesticides. Est-ce que dans le paradigme actuel, c'est juste possible, entendable par ces responsables politiques-là ?
Ça a bien du mal. On est dans un système qui effectivement est productiviste. Donc les lobbies de l'agroalimentaire à Bruxelles sont beaucoup plus puissants que les nôtres, puisque eux, ils ont des moyens, nous n'en avons pas. Donc eux USA, regardez l'affaire du glyphosate, est tout à fait emblématique, quoi. Donc, ils se battent enfin sur une molécule pour dire qu'elle n'est pas si dangereuse que ça, sauf qu'ils oublient de dire que quand la molécule est commercialisée, elle s'appelle Roundup et il y a des additifs. Et ce sont précisément les additifs qui sont dangereux. Donc, c'est une bagarre incessante. Mais il y a eu des victoires, bon, vis-à-vis de Monsanto. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais enfin en tout cas, il y a des brèches quand même qui commencent à s'ouvrir. Et on espère que ça continuera.
Et vous unissez vos forces avec d'autres associations, groupes qui agissent sur les mêmes objectifs, autant au niveau local qu'européen, ça fonctionne bien et la mutualisation des forces est indispensable.
Alors déjà, donc au niveau européen, les choses commencent à se faire de plus en plus, mais déjà nous agissons sur l'Ouest, mais nous travaillons avec Phytovictime, qui est un organisme qui agit au niveau national, avec Génération Future et également avec le syndicat Solidaire.
Syndicat Solidaire qui a eu un rôle à jouer important dans certains des cas que vous avez défendus. Je vais revenir sur un des premiers cas, peut-être que vous avez connu, ou en tout cas un des cas très emblématiques, c'est le cas de Triskalia, avec plusieurs salariés, Laurent, Stéphane, Pascal, Claude, Edith et Raymond, c'était en 2015. Vous pouvez nous parler de cette histoire-là et de la situation actuelle de ces personnes exposées aux pesticides ?
Bah, cette histoire, disons qu'elle se décompose en plusieurs épisodes. L'épisode numéro 1, bon, c'est celui de Triskalia à Plouisy, et donc là il y a eu effectivement des avancées. En gros, ce sont des gens qui ont été empoisonnés par des produits qui d'ailleurs étaient interdits. Ils ont été empoisonnés parce qu'ils n'avaient aucune protection. Il y a même eu un suicide, et petit à petit, donc les droits de chacune des personnes sont reconnus, mais ça se fait vraiment au cas par cas, ça se fait avec des grandes lenteurs. Il y a un deuxième cas, c'est toujours Triskalia, mais c'est sur le site de Glomel, pour vous citer des chiffres qui font quand même froid dans le dos, sur un atelier où il y avait une dizaine de personnes. Elles sont à peu près toutes mortes maintenant, à des âges qui ne sont pas du tout normaux, ou sont atteintes de cancer qui les mettent dans des situations de maladie extrêmement graves. C'est des lymphomes, c'est des maladies de Parkinson, etc., quoi. Donc, ce cas des victimes de Triskalia a été la base initiale de mobilisation de notre association. Mais il n'y a pas maintenant donc que les victimes de grosses entreprises comme celle-ci. Il y a des gens qui travaillaient comme techniciens dans des champs, ils ont été atteints. Vous avez quand même toutes sortes de situations très très graves. Il y a des agriculteurs qui ont été atteints de cancer, certains même pratiquent maintenant l'agriculture bio, mais ils ont été atteints à l'époque où ils étaient encore en agriculture conventionnelle. Donc sur les derniers mois, nous avons eu à peu près une quinzaine de personnes qui ont fait appel à nous pour des cas qui sont extrêmement lourds, quoi. Et le thème qui nous préoccupe le plus actuellement, tout nous préoccupe, mais c'est la situation des riverains de zones qui sont exposées aux pesticides. Vous avez des gens qui subissent les dérives de pesticides, donc que ce soit dans le traitement des pommiers ou de bien d'autres choses, mais le cas des pommes est tout à fait grave. Et les personnes fragiles, les femmes enceintes, les enfants en bas âge, etc., subissent ces dérives de pesticides, parce que sur les pelouses, sur le linge qui sèche dehors, sur les jouets des enfants, on a des pesticides qui sont épandus à cause des dérives. Et la réglementation européenne à ce sujet-là, pour revenir à cette question, n'est pas suffisamment protectrice, puisque l'arrêté qui avait été pris en 2006 doit être revu pour une question de forme au départ, mais il ne protégera pas les riverains de façon satisfaisante, ça on le sait bien, donc il faudra se battre partout au niveau local.
Tous exposés donc à ces dangers des pesticides, et pourtant cette prise de conscience a l'air d'avoir un petit peu de mal à se mettre en place. Vous soulignez vous-même que sans un grand changement dans nos habitudes et dans notre façon d'agir, il ne pourra pas y avoir de changement. Qu'est-ce qu'une personne peut faire à son niveau individuel ?
On sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui est très très importante, hein. Mais il y a toujours un fond de déni. Hein. Je voyais il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 mois, un agriculteur qui faisait appel à nous, association de soutien aux victimes des pesticides, tout en disant « je suis malade, mais je sais bien que ça ne vient pas de ça, que c'est aussi un peu le fait du hasard, quoi. » Même les personnes qui sont parfois atteintes sont dans le déni, parce que le déni, psychologiquement, c'est peut-être aussi une façon de se protéger, quoi. Maintenant, personne n'est dupe, les personnes atteintes non plus savent bien que s'il y a une telle recrudescence des cancers dans certains milieux, ça n'est pas par hasard, c'est à cause de ce qu'on respire, c'est à cause de ce qu'on boit, c'est à cause de ce qu'on mange, c'est à cause des lieux qu'on fréquente quand on se promène, parce que bah, y a eu des épandages. Donc tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, mais la pression des lobbies est très importante. Alors que faut-il faire pour avancer sur cette question? C'est la mobilisation des voisinages le plus possible. On en voit actuellement du côté de Trélières à côté de Nantes, de Pont-Scorff à côté de Lorient, etc., qui commencent à se mobiliser. Mais comme les personnes qui se voient atteintes, elles sont obligées, elles sont d'abord seules pour discuter avec la personne qui épand à côté de chez elle. Elle essaye de faire appel à la mairie ou à la communauté de communes qui parfois fait la sourde oreille. Donc notre association soutient les mobilisations qui commencent et puis commence à créer des outils pour dire aux personnes comment il faut faire. Donc ça au niveau des riverains, je pense que les choses sont lancées, on se fait aider d'avocats, hein, et on essaye d'aider les gens à agir avec méthode et pas simplement avec émotion. Hein. Et puis nous pensons que régulièrement il faut faire de l'information auprès des populations. Nous avons déjà fait beaucoup de soirées, films et débats pour expliquer ça. À chaque fois, ces événements ont été extrêmement suivis, quoi. Donc on se dit que l'information commence à passer, mais bon, on a de quoi s'occuper pour essayer de convaincre le plus possible les gens. On travaille également avec les syndicats agricoles, la Confédération paysanne en particulier.
Et l'information justement sur tout ça, c'est tout le sens de votre présence ici à l'antenne aujourd'hui. Merci beaucoup Henri Bunel. Toutes les personnes intéressées ou concernées retrouvent ces informations sur le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Voilà, c'est moi qui vous remercie.
Et le principal rendez-vous, c'est Jean-Luc Chagnolot, un cas bien connu en tout cas de nos voisins de Loire-Atlantique. Sa famille se bat pour que son affection soit reconnue comme une maladie professionnelle. Un rassemblement est prévu demain à 14h devant le tribunal de la Sécurité sociale de Rennes, tribunal administratif de la Sécurité sociale. Il y aura déjà pas mal de personnes. Et voilà, vous voyez bien que l'enjeu, il est justement de changer un petit peu les choses et puis surtout de faire reconnaître que ces agriculteurs sont soumis à des risques professionnels très importants. Vous l'avez entendu, il l'a dit, les instances publiques ne sont pas toujours très honnêtes vis-à-vis de tout ça. Donc il y a du travail à faire sur nous, notre consommation. Et puis pour aider, pour faire changer les choses, faire changer le paradigme dans tout ça.
Merci Romain pour ce sujet. Tu restes avec nous puisqu'après on parle encore des trans, ça ne te quitte pas.
Ah oui, avec une bretonne, une quimperoise.
Et oui, c'est ça. Mais avant ça, on écoute une musique. Je sais que tu adores ma playlist. C'est Alb avec Endless Together. Together. I know you've been around. I'm not the only one, but I want you for me. And now you're back in town. Will I ever get a chance to show you how it really could be? So close to you now. Then I close my eyes and I drop into dreams. I knew it wasn't what it seemed, but it took me a while to see that it's only a tease. Cause everything you need, everything you want, just keep coming to me. I follow where you go when I'm in the flow. I always hear you calling. Feels like ecstasy.
I'd do anything for you. I'd do anything that makes us endless.
I know you're gonna say that you don't understand, cause you don't even breathe. You drag me up and down, cause I'm scared of what we found. Somehow it's still so hard to believe.
I'm sorry, it's not you, it's me. I'll always love you, but
I wanna stay the same. I could feel the pain when you said that you had to live. Why'd you have to leave? Cause everything you need, everything you want, just keep coming to me. I follow where you go. When I'm in the flow, I always see you coming. There's no in between.
I'd do anything for you. I'd do anything that makes us endless forever. I'd do what you want me to. I'd do anything that makes us endless together.
Now I'm here, honey. We'll always be together. Our love will last forever.
Oh, sugar, I love you so much, but are you really quoting Electric Dreams?
Voilà, c'était Albe sur Syllabe.
C'est mignon, Vicky, t'es amoureuse ou c'est quelque chose comme ça, c'est ça?
Oh,
c'est... oh, c'est tout rose, c'est tout bonbon, c'est tout mignon.
Oh, t'as un problème avec ma playlist ce soir. Bon, et ben, on va mettre tout le monde d'accord tout de suite. On va écouter l'interview de Songe, qui est du coup quimpéroise, tu dis?
Et elle est quimpéroise, elle est venue sur notre plateau au Transmusical avec Radio Campus France. Et bah, effectivement, elle joue aux Libertés. Elle a fait un très très bon live, d'après ce qu'on a pu entendre. Nous, on était encore en direct. Mais bon, très sympathique. Alors peut-être, on le disait en off, peut-être un peu intimidé par le micro, le gros plateau qu'on avait et puis tous ces intervieweurs. Mais oui, une valeur sûre à suivre. D'ailleurs, une petite dédicace à Claude, si jamais il nous entend. Je sais qu'il a toujours une oreille sur les ondes de Radio Campus. Bah oui, Songe, c'est du très très bon, c'est très bien produit. Ça fait plaisir. En plus, elle est bretonne, parce qu'on est un petit peu quand même dans notre coin à penser qu'il n'y a que nous qui faisons des trucs bien. Bah, Songe, ouais, c'est du lourd. Elle a été très sympathique avec nous, ce que je tiens à souligner, parce que ça n'a pas été le cas de tous les artistes des trans. Donc, merci beaucoup à Songe. Vous allez entendre tout de suite, malgré cette timidité, il y a beaucoup de générosité.
Voilà, vous l'aurez compris, chez Syllabe, on l'aime beaucoup. Donc, tout de suite, on écoute l'interview de Songe.
Radio Campus fait ses transmusicales.
Du 1er au 3 décembre.
En direct du Festival Rennais.
On enchaîne dans cette émission, allez, sans transition, avec l'une des plus belles voix de cette édition des Transmusicales de Rennes. Elle nous vient du Finistère, il s'agit de Songe. Ça va, Songe?
Oui, ça va, merci.
Alors, on est très content de te voir. On a entendu ce morceau Now des centaines et des centaines de fois sur l'antenne de Syllabe. On en est fan. Et deux journalistes de campus qui sont super chauds pour t'en reconnaître un peu mieux.
Okay.
On va essayer.
Alors du coup, Songe, qui est une jeune artiste de Quimper, s'illustre pour faire bouger la scène française du R&B, et c'est beau. Et elle a fait de quelques kilomètres, puisqu'elle vient de Bretagne, c'est pas très loin, pour venir au Trans pour nous interpréter ses célèbres titres comme Now et Colorblind. Et elle sera sur scène tout à l'heure, dans très peu de temps, à l'étage, puisque tu joues précisément à 18h20 pendant 40 minutes. Comment ça va? Tu le sens bien?
Ouais, ça va, je le sens bien.
Alors du coup, première question, j'ai vu un article qui disait que la musique était devenue transgenre, c'est-à-dire qu'on ne savait plus vraiment où catégoriser les personnes, et tu étais cité dans l'article, puisque tu fais de la PC musique, tu as fait bouger le R&B. Qu'est-ce que c'est pour toi cette transformation de qui n'est plus de vraie case musicale? Ça fait quoi chez toi?
Bah, ça fait du bien. Enfin, du coup, je me pose pas trop la question si je suis dans la case ou si je suis entre deux cases, mais bon, de toute façon, moi, j'aime bien aller voir ce qu'il y a dans
un peu partout,
et du coup, forcément, ça, je sais pas, ça fait du bien à l'esprit de voir des nouveaux trucs et tout, et du coup, je pense que
naviguer entre plusieurs styles.
Ouais.
Alors je voulais revenir juste sur le début de ton parcours, savoir si finalement cette musique-là, tu l'as découverte à Quimper. On a du mal encore